Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le comité chargé de rédiger une nouvelle constitution pour la Syrie a commencé ses travaux aujourd'hui à Genève. À New York, le Conseil de sécurité a discuté aujourd'hui de la coopération entre l'ONU et l'Union africaine. À Genève, un sommet sur les zones de haute montagne examine l'impact du changement climatique. Et en dossier, une survivante de violences sexuelles en République démocratique du Congo appelle à faire de la lutte contre l'impunité une réalité et à permettre aux victimes de se reconstruire. Le comité constitutionnel syrien chargé de rédiger une nouvelle constitution a débuté ses travaux aujourd'hui à Genève sous les auspices des Nations Unies. Lors de la cérémonie d'ouverture, le médiateur de l'ONU, Geir Pedersen, a souligné devant les 150 membres de ce comité qu'il voyait un signe d'espoir. On l'écoute.
Je sais que ce n'est pas facile pour vous tous d'être réunis dans cette salle et je m'y attends, mais c'est un signe d'espoir. Je sais qu'il y a des sentiments profonds parmi vous qui reflètent les sentiments profonds des Syriens au sujet de l'état de leur pays bien-aimé après presque 9 ans de conflits violents. Mais le fait que vous soyez ici aujourd'hui, assis face à face, prêts à entamer un dialogue et des négociations, est, je crois, un puissant signe d'espoir pour les Syriens aussi. Aussi bien à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose de nouveau, de significatif pour la Syrie et pour les Syriens de partout, et que cela soit dirigé par vous et vous seulement, comme les deux coprésidents l'ont signalé. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cela se réalise. Demain, le dur labeur commence.
Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui pour discuter de la coopération entre l'ONU et l'Union africaine. L'occasion pour la représentante permanente de l'Union africaine auprès des Nations unies, Fatima Mohamed, de vanter les réussites de ce partenariat, tout en appelant à en améliorer certains aspects. Pascal Sim nous en dit plus.
Des progrès significatifs ont été enregistrés dans le partenariat entre les Nations unies et l'Union africaine, a souligné Fatima Mohamed devant le Conseil de sécurité. La représentante de l'UA à l'ONU a cité plusieurs exemples. En RCA, les efforts des deux organisations ont permis la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. Au Soudan, l'ONU et l'UA ont contribué au développement positif ayant permis une transition. Au Soudan du Sud, les Nations Unies et l'Union africaine ne ménagent pas leurs efforts pour accélérer la mise en œuvre de l'accord entre le gouvernement et l'opposition. Et au Mali, les deux organisations œuvrent à créer un environnement plus sûr et à finaliser une stratégie harmonisée pour le Sahel. L'Union africaine note toutefois que la coopération avec l'ONU doit être améliorée en matière de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit. Fatima Mohamed a également déploré que lors des désaccords, le point de vue de l'ONU l'emporte très souvent, un scénario qui, selon elle, mine la relation entre les deux organisations au lieu de l'améliorer.
Les plus hauts sommets de notre planète subissent d'importants bouleversements sous l'effet du changement climatique, avec des conséquences pour des régions les plus peuplées du globe. C'est la mise en garde lancée par l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Pour en discuter, l'OMM et plusieurs partenaires organisent cette semaine à Genève un sommet sur les zones de haute montagne. Samuel Morin est chercheur à Météo France. Il explique l'importance de ce sommet.
En général, quand on traite une région du monde, les montagnes font partie du paysage, mais c'est rarement l'attention. Dans la plupart des pays du monde, les montagnes sont une partie du territoire, donc c'est pas forcément toujours mis au centre du débat. Là, c'est la première fois qu'il y a un sommet qui traite directement des zones de montagne avec un grand nombre de parties prenantes, que ce soit l'Organisation mondiale de l'agriculture, que ce soit l'Organisation météorologique mondiale, que ce soit un certain nombre d'organisations et de représentants des services météorologiques des pays du monde, et également un certain nombre d'organismes de financement, tels que la Banque mondiale, qui viennent aussi voir qu'est-ce qui existe déjà pour les zones de montagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier la façon dont on peut mettre en priorité les développements les plus nécessaires, et on mesure bien dans quelle mesure les développements les plus nécessaires ne sont pas forcément d'avoir plus de stations météo, d'avoir plus d'infrastructures, mais surtout d'améliorer la façon dont les décisions sont prises, d'améliorer la façon dont les populations sont intégrées dans le processus de construction des outils de prévision, par exemple, pour que les services qui sont mis en place soient les plus performants possibles du point de vue scientifique, mais aussi les plus utiles possibles. Et ça, on peut s'en assurer que si on intègre les utilisateurs dès le début de la construction des services et comment ces services aussi favoriser finalement les échanges entre les pays. Il y a une notion aussi de gouvernance régionale des différents pays. Quand on parle de gestion de l'eau, quand on parle de gestion des risques naturels, finalement, les zones de montagne ne voient pas les frontières politiques ou géographiques de nos États. Et des sommets comme le sommet sur la haute montagne, c'est aussi une occasion d'échanger et d'identifier la façon dont on pourra progresser à l'avenir sur ces sujets-là.
Lorsqu'une femme est victime de violences sexuelles et que ses capacités physiques sont...
L'ONU marque aujourd'hui les 10 ans du mandat de la représentante spéciale de l'ONU pour les violences sexuelles et les conflits armés. À cette occasion, un fonds mondial pour les survivants de violences sexuelles a été lancé. Malgré les avancées, l'impunité règne toujours et les victimes sont souvent laissées pour compte. Nous écoutons le témoignage de Tatiana Mukanire, la coordinatrice nationale du mouvement des survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Elle est au micro de Christina Silvero.
Pour moi, c'est très important d'être là, de porter haut et fort la voix de mes pères survivantes. Pour certaines qui n'ont pas encore eu le courage de briser ces silences et de parler, et d'autres et qui voudraient bien venir et porter leur voix, mais ça n'a pas été possible. Et aujourd'hui, je suis là pour que je porte cette voix, que je respecte vraiment du fond de mon cœur. Et je voudrais que je donne tout ce que ces survivantes, mes pères, m'ont donné comme recommandation aux Nations Unies, pour que les gens comprennent que nous n'avons plus besoin de paroles en l'air. Nous n'avons plus besoin de promesses, mais que nous avons besoin, sincèrement, des actions concrètes pour que nous puissions nous en sortir.
Ça veut dire quoi, des actions concrètes?
Depuis des années, on nous promet qu'il y aura la paix, que les femmes seront sécurisées, que les enfants aussi du viol seront pris en charge, qu'il y aura de réparation pour les victimes. Ça fait quelques années que nous avons fait un marathon pour avoir un fonds global pour les survivantes. Et jusque-là, rien n'est fait. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour réveiller cette conscience. En fait, nous n'avons pas besoin de la pitié des gens, mais nous avons besoin que les gens réalisent leurs promesses et qu'ils arrivent à mettre effectif ce fonds de réparation, ce fonds global de survivantes, et en même temps qu'ils puissent nous mettre en paix, qu'ils puissent donner une bonne réinsertion socio-économique pour les survivantes. Ainsi, les survivantes pourront se réinsérer dans la société. Mais cependant, il ne faut pas oublier que toutes les survivantes, toute personne a besoin de la sécurité et que les réinsertions socio-économiques, on peut bien le donner, mais tant qu'il n'y aura pas de sécurité, qu'il n'y aura pas de justice dans ce monde, il y aura toujours de victimes, il y aura toujours de survivantes et c'est très important que cela soit fait.
Vous parlez de la réinsertion des survivantes. Vous êtes aujourd'hui donc défenseur des survivantes. Comment vous êtes arrivé à ce point de passer de victime à leader dans votre communauté?
En fait, ça n'a pas été facile. Ça ne vient pas d'un coup de baguette magique. Il faut vraiment prendre son temps. J'ai eu la chance d'être prise en charge par le docteur Mukwege. C'est pas la chance que tout le monde a pu avoir. Et en juin 2017, je participais à une première retraite de survivantes. Et sincèrement, j'ai rencontré des femmes très fortes qui sont vraiment engagées à se battre contre leur douleur. C'était pas du tout facile pour moi, mais en rentrant dans mon pays, je me suis rendu compte que je pouvais mieux faire, je pouvais aider d'autres survivantes. Bien sûr que la douleur est toujours là, on vit avec, mais c'est important pour nous de lutter et de faire montrer que malgré tout ce qui nous est arrivé, nous pouvons changer le monde. Et c'est dans ce sens que je puis briser les silences. Et avec d'autres survivantes de mon pays, nous avons créé le réseau de survivantes en RDC.
Est-ce que cela a été difficile au début pour vous et pour votre communauté?
En fait, c'est toujours difficile pour la communauté. Je donne un exemple d'une dame qui a été violée publiquement devant ses enfants. C'est une mère de 5 enfants qui a été violée devant son mari et ses 5 enfants. C'est au fait un spectacle que la famille vraiment n'oublie pas. À un moment donné, on a demandé au père de violer sa fille et le père n'a pas été d'accord. Et on l'a tué à bout portant. Et c'est un spectacle que cette famille n'oubliera jamais. C'est un spectacle que cette communauté n'oubliera jamais. Quelque part, les violences sexuelles détruisent la femme. Mais les violences sexuelles détruisent plus encore cette communauté. Parce que quand il y a l'impunité, quand il n'y a pas de justice, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est normal de violer parce que personne n'a été interpellé pour ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait une justice qui soit effective et de réparation. C'est difficile de se reconstruire dans un espace où il n'y a pas de sécurité. Mais si le devant de père est que cette personne a sa sécurité physique et après elle pourra avoir une sécurité économique. C'est vraiment très important de tenir compte de ce que nous en tant que survivantes nous voulons. Peut-être que les Nations Unies, les États peuvent avoir vraiment cette bonne volonté de nous aider. Mais c'est très important de nous consulter et de savoir de quoi nous on a besoin. Qu'est-ce que nous voulons pour que le monde change, que notre lendemain puisse changer.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. À retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.